Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir à 19h19, dans le débat du Club des Idées, l'espoir d'un vaccin en question, c'est la grande information révélée cette semaine. C'était lundi, les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent avoir développé un vaccin efficace à 90% contre la Covid. On sait également que d'autres firmes européennes sont dans les starting blocks. C'est une lueur d'espoir, car chacun sait maintenant que ce vaccin, c'est la seule issue possible pour nous sortir de cette crise sanitaire. Alors à quand les premières vaccinations? Comment cette immense logistique planétaire va-t-elle s'organiser concrètement? On en parle ce soir avec Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Bonsoir Ève.
Bonsoir.
On en parle également avec Frédéric Bizard. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Économiste, expert des questions de protection sociale et de santé, auteur de « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» aux éditions Fauve. On en parle également avec Anne-Claude Crémieux. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. Et on en parle également avec le professeur Christian Bréchaud. Bonsoir, vous êtes virologue, ancien patron de l'Inserm, ancien directeur général de l'Institut Pasteur et vous êtes aussi l'actuel président du Global Virus Network. Question d'abord pour vous peut-être... Frédéric Bizard, d'abord, quand est-ce qu'on saura si ce vaccin est efficace à 100% et si c'est le cas, à quel moment pourra-t-il être commercialisé?
Ça, c'est plus une question pour le professeur Bréchaud, mais en tout cas, moi, ce qu'on peut dire là, c'est qu'on a des résultats partiels. Il est attendu d'autres résultats à fin novembre, notamment concernant les questions de sécurité. Le laboratoire espère pouvoir avoir une homologation début 2021. Ça, c'est le planning.
Vous avez des réponses.
C'est le planning annoncé. Après, sur la crédibilité de ce planning-là, on peut se prononcer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pourquoi est-ce que Pfizer a fait cette annonce-là? C'est que d'abord, c'est un pas technologique relativement important, puisque c'est la première fois qu'on démontre que ce type de vaccin ARN messager, et donc avec utilisant du génie génétique, est efficace. Hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'on essaie, mais c'est la première fois en tout cas que ça marche. La deuxième raison, elle est plus commerciale, je dirais, c'est que tout ça, il y a des parts de marché à prendre, et que Pfizer, évidemment, a fait cette annonce, d'ailleurs avec un certain succès, puisqu'on a vu que l'Union européenne en a commandé 300 millions de doses. Donc, si vous voulez, sur un marché qui comprendra un certain nombre de milliards de doses, ben le premier, il prend pas tout, hein, c'est pas le winner takes all, mais enfin il en prend une bonne partie, il en prend plus que les autres, donc il y a aussi évidemment des raisons commerciales à cette annonce.
Alors deux questions pour vous Ève Roger, on va les faire dans l'ordre. D'abord, combien de laboratoires sont aujourd'hui à l'image de Pfizer les plus avancés dans leurs tests?
Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 11 vaccins, candidats vaccins, qui sont aujourd'hui en phase 3, c'est-à-dire qu'ils sont en test presque à grande échelle sur l'homme, autour de 30 et 40 000. Et dans ces 11, hein, dans cette dizaine, il y a, hélas, il n'y a pas de Français. Hein. Il y a le BioNTech, il y a des Chinois, il y a le Russe.
On avait reçu ici même le patron de Sanofi qui nous avait dit avec Pasteur qu'ils étaient très avancés, mais visiblement, ils ont pris un peu de retard.
Alors, ils ont pris un peu de retard parce que je crois que la phase 3 est annoncé pour le mois de décembre pour le laboratoire Sanofi. Et puis tout à l'heure, vous disiez 100% efficace. Il n'y a pas de vaccin 100% efficace. Vous voyez, même la grippe, on est entre 30 et 60% d'efficacité. La rougeole, on doit être autour de 90%. Donc aucun vaccin n'est 100% efficace. Disons que déjà 90%, c'est énorme. C'est énorme par rapport à l'efficacité des vaccins.
Alors, vous êtes avec nous, professeur Christian Bréchaud. Je voudrais peut-être d'abord avec nous qu'on détaille pour le grand public, cette technique très différente sur laquelle a travaillé Pfizer, associé à BioNTech, qui utilise donc la technique dite ARN messager. De quoi s'agit-il?
Ben, si vous voulez, pendant très longtemps, on a injecté effectivement soit du virus inactivé, ensuite on a injecté, quand est arrivée la période, l'époque des biotechnologies, on a pu injecter l'ADN, le génome, si vous voulez, d'un virus. Par exemple, il faut rappeler que le vaccin contre le virus de l'hépatite B a été le premier exemple en fait de succès de cette approche. Et là, on va un pas plus loin, c'est-à-dire qu'on injecte directement l'ARN, c'est-à-dire en fait la molécule qui va, une fois qu'elle est introduite dans la cellule, dans notre cellule, va immédiatement conduire à synthétiser une des protéines du virus, mais sans qu'on ait eu à introduire un vecteur virale et encore moins des particules virales. Donc le principe, c'est ça. C'est une injection d'ARN qui code de façon spécifique pour une des protéines du virus et en l'espèce une protéine d'enveloppe qui est impliquée, si vous voulez, dans la pénétration du SARS-CoV-2 dans les cellules.
Est-ce que c'est une technique, professeur, qui a déjà été utilisée par le passé ?
C'est vraiment une technique nouvelle. Alors oui, justement, les compagnies que vous avez citées, BioNTech, Moderna, il y a aussi d'autres compagnies qui sont moins connues, qui travaillent
que
là-dessus.
Que des biotech d'ailleurs.
Oui, que des biotech. Mais ça, c'est d'ailleurs assez logique. J'y reviendrai dans un instant sur le partenariat avec Pfizer. Mais donc, ça fait quelques années, disons, qu'on a vu. Mais là, ce qu'on est en train de voir de façon assez éclatante, c'est une preuve de concept que ce type de vaccin peut marcher. On va revenir sur la prudence qu'on doit avoir et les limites. Mais la preuve de concept que ce type de vaccin peut marcher contre des maladies infectieuses, là, c'est vraiment une grande première qui va s'inscrire, si vous voulez, dans l'histoire, finalement, de la vaccination et des différentes méthodes qu'on a pu avoir.
Bien, vous restez avec nous, évidemment, en ligne. Vous êtes en direct des États-Unis, voilà, pour que chacun le sache. Ouais. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Vous restez, évidemment, avec nous. Pour que chacun comprenne bien, Ève Roger, ce qui se joue en ce moment chez Pfizer, plus de 43 000 personnes jouent les cobayes, ça se passe en ce moment, les tests ont débuté pour tester l'efficacité du vaccin. Alors une moitié reçoit le vaccin, l'autre moitié un placebo, puis tout le monde rentre chez soi.
C'est ça.
Les chercheurs attendent ensuite que les individus soient contaminés et puis regardent
les
résultats.
C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que ça dure longtemps. Parce que c'est vrai qu'on n'injecte pas le SARS-CoV-2 dans un être humain, plus un vaccin, pour voir si ça marche. Il faut vraiment attendre qu'on soit contaminé. Donc sur ces 43 500, il n'y en a que 94 qui ont attrapé le Covid, mais on ne sait pas exactement dans quelle proportion. Tout ce qu'on sait, 90%, ça veut dire que les personnes vaccinées ont été 10 fois moins nombreuses que les personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est ça que ça veut dire, ces 90%.
Professeur Crémieux, sur ce vaccin Pfizer, mettez-vous devant le micro, professeur. Voilà, mettez-vous devant le micro. Sur ce vaccin Pfizer, c'est vraiment une lueur d'espoir au bout du tunnel ?
Comme le disait le professeur Bréchaud, je trouve qu'il y a un avant et il y a un après. On est en train de voir une mini-révolution en maladies infectieuses pour deux raisons. La première, c'est la rapidité avec laquelle ce vaccin a été développé. Rappelez-vous, ce virus n'était pas connu il y a moins d'un an. C'est la première fois. Et c'est assez impressionnant qu'on ait pu développer autant de vaccins avec des technologies différentes. Donc on a le premier résultat, mais on va avoir d'autres résultats avec des technologies différentes. La deuxième chose, c'est, comme l'a souligné Christian Bréchaud, c'est effectivement, on innove en plus sur des technologies qui avaient été travaillées, mais jamais, qui n'étaient jamais arrivées en phase 3.
Frédéric Bizarre, comment se fait-il qu'habituellement, là où il faut 10 ans pour concevoir un vaccin, on ait cette fois réussi en quelques mois seulement ?
Vous savez, c'est assez simple. C'est une question d'investissement, de masse d'investissement qui a été donnée, parce que cette technologie a déjà été utilisée, il me semble, sur le SARS-CoV-1. Donc on avait testé, sauf qu'on l'avait arrêté, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'investissement du fait que ce début d'épidémie ne s'est pas transformé en la pandémie qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez jamais eu un tel montant d'investir dans ces technologies. Oui. Donc ces technologies existaient.
Donc à chaque fois, c'est juste une histoire d'argent et de moyens.
C'est pas juste une histoire d'argent, mais vous savez, c'est quand même là où... Attention, parce que ce n'est pas la Big Pharma qui est la plus innovante. Ce qu'on voit là, c'est que ce sont plutôt des sociétés de biotech qui sont les plus innovantes, qui sont plutôt flexibles, mais qui sont supportés sur le plan financier, soit par les États, comme c'est le cas de Moderna, qui a reçu 2,5 milliards de l'État américain, soit par la Big Pharma, qui apporte son pouvoir. Donc, c'est quand même une affaire, avant tout, de technologique à la base, mais derrière cette technologie, il faut investir massivement pour le transformer en innovation concrète.
Et on parlera dans quelques secondes aussi de la stratégie de vaccination. Là, c'est un enjeu colossal qui se joue également à l'échelle planétaire. 19h28, vous restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h40, 19h30 même, c'est la suite du débat du Club des Idées dans Europe Soir avec l'espoir d'un vaccin en question. C'est vraiment la grande information révélée cette semaine. Pfizer et BioNTech qui ont annoncé avoir développé un vaccin efficace à 90% contre la Covid. Donc on en parle ce soir avec nos invités. Je voudrais qu'on évoque la stratégie de vaccination, c'est l'un des points clés. Il y aura évidemment derrière une logistique absolument considérable pour fabriquer et acheminer tous ces vaccins jusqu'à chez nous. Car ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication chez Pfizer a déjà débuté. Dans les usines, les cadences s'accélèrent. Une cinquantaine de millions de doses doivent être produites avant la fin de l'année, avec des contraintes évidemment très fortes, notamment pour garder la chaîne du froid, car le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés. J'ai vu que l'armée américaine avait d'ailleurs été sollicitée. Pfizer a déjà mobilisé des camions, des avions, en prévision de la livraison de, de ce vaccin. Frédéric Bizard, c'est aussi la campagne de vaccination qui s'annonce. Si un seul vaccin est efficace et homologué avant les autres, ce qui va jouer, c'est aussi qui seront les premiers servis. Vous évoquiez tout à l'heure la commande record de 300 millions de doses qui ont été passées par les Européens.
Alors là, vous rentrez dans la discussion où on va voir tous les facteurs limitants et où on va calmer un petit peu l'enthousiasme de tout le monde par rapport à ce vaccin. La bonne nouvelle quand même, c'est que ça ne sera probablement pas le seul, puisqu'il y a d'autres vaccins qui utilisent cette technologie.
Mais qui vont arriver en même temps sur le marché, à peu près en même temps.
Puisque Moderna va annoncer des résultats très, très prochainement. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que ça ne sera pas le seul. Maintenant, d'abord, la route n'est pas un long fleuve tranquille jusqu'à l'homologation et jusqu'à la production. Mais ce vaccin, il a des facteurs limitants très importants, qui vont être d'abord dans la matière première, dans les enzymes qui vont être utilisées, qui fait que des ruptures de stock sont quand même assez largement, à mon avis, prévisibles quand on écoute un petit peu les spécialistes en la matière. Puis ensuite, il y a ce fameux stockage à moins 80 degrés qui fait qu'il faut des super congélateurs et c'est pas avec nos 60
congélateurs. J'ai vu que les hôpitaux français n'étaient même pas tous équipés pouvoir conserver ce type de vaccin.
Vous voyez qu'on en a 60, donc ça, c'est un autre facteur limitant. Donc ça sera un produit principalement hospitalier, probablement.
Oui.
Mais c'est déjà, si on protège une partie de la population, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a évidemment, encore une fois, ce goulot d'étranglement de la production. Les annonces de Pfizer sur 1,3 milliard sont, de mon point de vue, pour rester sympathique, très optimiste. Et donc, quand est-ce que la France aura les premières doses? Malheureusement, lorsque vous n'êtes ni inventeur ni producteur, vous avez quand même de grandes chances de passer après les autres, et d'autant plus que les Américains ont quand même fait des précommandes extrêmement importantes. Oui. Donc voilà. Donc
mais j'ai posé la question au professeur Christian Bréchaud, ancien patron de l'INSERM et ancien directeur général de l'Institut Pasteur, qui est toujours avec nous, professeur. C'est vrai que si Pfizer a déjà lancé les lignes de production de ces doses de vaccins, ça veut dire qu'il est relativement optimiste quand même sur l'issue des résultats de la phase 3. Après, il y a l'homologation, voilà, je vais y arriver, avec le gendarme de la santé d'abord chez les Américains, puis après chez nous en Europe. D'ailleurs, je ne sais pas comment tout ça va s'organiser, mais ça veut dire qu'a priori, ça y est, on y est.
Alors, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, par rapport à ce qui a été dit, le partenariat entre Pfizer et BioNTech, je trouve effectivement très vertueux. C'est-à-dire, BioNTech, c'est vraiment la biotech qui invente. C'est eux qui inventent, et je vais y venir dans un instant sur la stabilité, qui est fondamentale, comme ça a été dit. Et Pfizer a fait un partenariat intelligent en leur donnant la possibilité de développer, de commercialiser. Pourquoi je dis ça? Parce que BioNTech a gardé la capacité d'être la compagnie innovante, et ils sont en train d'avancer sur la stabilité. Et par rapport à ce point majeur qui était effectivement souligné, je crois, par Frédéric Bizard, de la conservation à moins 80, moins 70, etc., il est possible, je veux pas, mais il est probable qu'on va avoir des annonces plutôt pas mal dans les jours et les semaines qui viennent concernant cet enjeu majeur de logistique, c'est-à-dire en fait une capacité d'avoir une stabilité dans des températures moins contraignantes. Donc je pense que cette innovation est absolument fondamentale, et le rôle des biotech par rapport aux grosses compagnies.
Oui.
Donc tout en découle en fait dans la question que vous discutez, parce que Pfizer a confiance, absolument. Est-ce que dans la phase finale, on sera toujours à 90% ou à 85% ou à 80%? Ça ne change pas le fond de la question. Les points, je crois, qui ont été évoqués de façon très brève, mais il faut les redire, c'est quand même effectivement avoir les données finales sur la sécurité. Ça va être fondamental pour convaincre les Français et le monde entier de se faire vacciner. Et ça, ce n'est pas uniquement les résultats. Oui, voilà. Et puis la durée de la protection et bien sûr la notion d'efficacité les groupes à risque, les gens âgés, les diabétiques. Mais tout ça pour dire que la conversation qu'on a sur la logistique, il est à mon avis probable qu'elle va évoluer.
Bien, mais elle est essentielle tout de même. C'est vrai qu'on est
absolument
dans une logistique
totalement
inédite à l'échelle planétaire. Professeur Crémieux, d'ailleurs, moi j'ai une question à vous poser. Quelle sera la stratégie de vaccination en France? On sait qu'il y a un monsieur vaccination qui a été nommé. Le Conseil scientifique, en juillet dernier, donnait un avis avec une recommandation d'ailleurs sur le ciblage des populations. Ça veut dire qu'une fois que les premières doses arriveront en France, il y aura un ordre de passage pour ceux qui souhaitent se faire vacciner?
Alors, dans tous les pays, ça fait d'ailleurs plusieurs semaines que les instances scientifiques essayent justement d'évaluer quel sera l'ordre des priorités. En fait, tout le monde est à peu près d'accord. D'abord, on va vacciner le personnel soignant pour que lui-même, d'ailleurs, bien puisse sûr. Être vaccinateur après. Et puis, parce qu'il est aujourd'hui le plus à risque. Et puis, ça va dépendre essentiellement de ce qu'on va savoir sur le vaccin. L'objectif, évidemment, majeur, ce serait que ce vaccin marche chez les sujets âgés, qu'il soit immunogène. On a l'impression qu'il l'est, puisqu'on a déjà des phases 2 qui ont été faites chez les sujets de plus de 60 ans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce serait de protéger les gens qui font des formes sévères.
Les plus fragiles.
Et puis, viennent après les autres professions qui sont très exposées, parce qu'au contact du public. En gros, c'est à peu près ça.
Donc vous êtes en train de me dire que moi, qui n'ai pas encore 40 ans, plutôt en bonne santé, c'est pas pour tout de suite que je me ferai vacciner.
Et vous avez raison, ce n'est probablement pas pour tout de suite.
Bon. Est-ce qu'il y aura...
Un aspect technique, qu'on sait déjà qu'effectivement, ce vaccin, qui doit être conservé à moins 80, peut rester quelques jours à moins 4, c'est-à-dire à plus 4, dans un réfrigérateur. Ceci fait qu'il y a des réflexions un peu partout pour savoir si quand même la vaccination pourrait se faire en dehors de l'hôpital. Et l'objectif serait d'une vaccination par les médecins, en gardant ces multidoses pendant 4 jours, dans leur...
C'est la question que j'allais vous poser, Ève Roger. Est-ce qu'on a des informations là-dessus sur la manière dont vont se passer ces campagnes de vaccination de masse? On se souvient par exemple qu'à l'époque du H1N1, alors ça n'avait pas fonctionné pour les raisons que l'on sait, mais des gymnases avaient été réquisitionnés pour pratiquer des campagnes de vaccination massive. Est-ce que ça sera le cas demain avec des immenses tentes qui seront montées à l'entrée des villes, dans les campagnes, dans les écoles, pour pouvoir vacciner à l'appel?
Alors, je vois votre enthousiasme, Julien, mais on a déjà vu qu'il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde. Il n'y en aura pas 67 millions pour les 67 millions de Français. Il y a cette question de la préservation, de la logistique, les moins 80, même si on peut le faire. Enfin, l'idée, j'imagine que ça doit être possible de faire ça dans des gymnases. Et puis, je voulais vous dire aussi, il y a quand même le Moderna, l'américain, il a quand même déjà promis entre 500 millions et 1 milliard. Donc, il n'y aura pas que notre Pfizer et le BioNTech. Oui. Il y a aussi Sanofi, le français, qui en promet déjà 1 milliard. Donc, c'est-à-dire qu'il va y en avoir, à un moment sur le marché, il va y en avoir des milliards ou des millions. Et c'est vrai que moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va falloir se faire vacciner avec tous en fonction de leur caractéristiques ou on n'en choisira qu'un seul? Ça, c'est vraiment une question que je me pose.
Et est-ce qu'il y aura, professeur Christian Bréchaud, une amélioration au fur et à mesure des mois de l'efficacité du vaccin? Pardon de vous restituer les débats qui ont lieu ici en France, mais il y a plein de gens qui disent « je ne suis pas sûr de me faire vacciner dès la première version du vaccin, parce qu'il peut être avec des effets secondaires, notamment, peut-être il faut attendre un peu plus ». Vous voyez, il y a ce genre de conversation et d'interrogation qui nourrissent le débat en France. Est-ce que ça sera le cas?
Et ce sont, à mon avis, des très bonnes questions, enfin, qu'on peut vraiment comprendre, et qui ont lieu en France, mais qui ont lieu absolument aux États-Unis de la même manière et dans le monde entier, et qu'on peut très bien comprendre. Mais je pense que ce qui vient d'être dit est très vrai. Il va y avoir plusieurs vaccins, mais non seulement plusieurs vaccins. Il y a plusieurs vaccins avec la même technologie, mais on va voir arriver des vaccins avec des vecteurs viraux, et je ne prends absolument pas parti, parce que je crois que personne ne peut savoir, mais il n'est pas impossible que ces vaccins puissent éventuellement donner une protection plus prolongée en stimulant une immunité cellulaire. Donc je crois que par rapport à la question fondamentale qui vient d'être posée, est-ce qu'on va pouvoir prendre n'importe quel vaccin, ou est-ce qu'il va falloir essayer de comparer et de choisir le meilleur, c'est là où il faut qu'il y ait des comités d'experts, à l'OMS d'ailleurs en particulier, mais ailleurs, et je sais qu'en France il y aura bien sûr, qui vont réellement devoir, et le feront, donner une information toute transparente, dans laquelle d'ailleurs le mot sécurité sera un mot absolument majeur au public, et qui permettra de prendre des décisions. Ça va être, il va y avoir un travail considérable à faire de comparaison. Oui.
Frédéric Bizarre, réagissez. Oui. Et puis, je voulais simplement progresser pour revenir à la question que je posais tout à l'heure, qui n'a pas été évoquée, sur la validation de ces vaccins. Est-ce que les règles sont les mêmes en Europe et aux États-Unis? On a chacun nos gendarmes du médicament et des autorités compétentes. Est-ce qu'une fois que le vaccin Pfizer sera validé aux États-Unis pour une mise sur le marché, une commercialisation, est-ce qu'il faudra qu'il repasse devant les sages français pour l'être, ou européens?
Bien sûr. puisque c'est une question de souveraineté sanitaire. Donc, oui. Vous avez des agences, des agences européennes, des agences américaines qui représentent un petit peu cette souveraineté sanitaire et qui décident de la commercialisation ou pas d'un produit. Juste pour reprendre, tirer le fil un petit peu du professeur Bajot, c'est oui, bien sûr que ça va dépendre de la sécurité, mais de toute façon, si les vaccins ne sont pas sûrs, ils ne seront pas commercialisés. Donc il faut, et c'est là où quand même, parce qu'on part de loin, hein, vous savez, en France, il y a une telle, un tel caractère anxiogène avec des idées complotistes contre le vaccin qui fait qu'il y a à peu près un Français sur deux qui ne souhaite pas se faire vacciner. On est le seul pays
hostiles,
au monde avec l'Italie, mais qui a arrêté, à obliger la population à se vacciner. Donc on est quand même dans un échec, mais que l'on paye.
Rappelons, parce qu'on l'oublie parfois, il y a 11 vaccins obligatoires aujourd'hui pour les enfants.
Mais oui, mais enfin, mon point, c'est, et moi j'ai participé au groupe de travail qui avait réfléchi à ça, et j'avais été dit, c'est ok, si on est peut-être obligé de passer par cette obligation, mais ça doit être temporaire. Il faut déjà penser à comment est-ce qu'on va en sortir. Mais donc là, ce que l'on paye, c'est une absence totale d'éducation sanitaire dans ce pays. Il n'y a plus de médecine scolaire, il y a une médecine du travail qui est en train de mourir. Donc tout ça, c'est quand même une vision avant tout.
La défiance vis-à-vis des vaccins, est-ce que c'est vraiment nouveau? Je lisais tout à l'heure un article qui racontait l'obligation du vaccin contre la variole en 1902 en France, et déjà à l'époque, il y avait une défiance terrible, professeur Crémieux.
Absolument. Les ligues anti-vaccinales sont nées avec les vaccins.
Oui.
Et notamment avec l'obligation vaccinale, car effectivement, les gens qui s'opposaient au vaccin, à la vaccination variole, c'était on est libre et on n'a pas à nous obliger.
Mais ça existe dans tous les pays, ce débat. Pourquoi est-ce que nous, on a perdu ce débat-là? Parce que c'est ça la question. Il y a Marx, qui s'y connaissait dans les idées, disait qu'une idée devient une force quand elle s'empare des masses. Donc la question, c'est est-ce que, quand j'ai entendu un haut responsable politique, en plus il s'occupe d'écologie, donc il doit avoir une écologie assez punitive, est-ce qu'on va avoir une santé publique uniquement punitive, ou est-ce qu'on a une santé publique avant tout pédagogique? Je laisserai le professeur Bréchaud peut-être répondre à cette question, mais en tout cas, je pense que la réponse est un petit peu dans la question. Tout est là. Est-ce qu'on abandonne le combat des idées par rapport à la santé publique, où il faut responsabiliser les gens?
Oui.
Vous me direz, là où on en est, dans l'abandon des libertés individuelles et de la responsabilité individuelle dans cette lutte anti-Covid, pourquoi pas obliger les gens?
On n'est plus à ça près. Alors, professeur Christian Bréchaud, votre avis sur la question? Vous savez qu'il y a un débat en France, ça ne vous a pas échappé, sur le caractère obligatoire ou non du vaccin lorsqu'il sera disponible. Votre position?
Alors d'abord, je voudrais dire qu'aux États-Unis, on fait face, bon, bien sûr, je suis très attentivement et je reviens en France de temps en temps, tout ce qui se passe en France, bien sûr. Mais aux États-Unis, vous avez la même chose. Hein. Vous avez au minimum 40% des personnes qui ne veulent pas être vaccinées. Donc c'est une question. Et dans le Global Virus Network, où on a des centres du monde entier, malheureusement, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, on a à faire face. Alors, c'est très, très difficile de répondre à votre question. Moi, la manière dont je vois les choses à titre personnel, mais je suis prêt à accepter la contradiction là-dessus, je vois pas comment on peut être obligatoire au début. Je crois qu'on doit... C'est toujours pareil, c'est ce qui a été dit. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre une transparence complète et en même temps, ça doit pas être anxiogène. Or, la transparence génère forcément un peu d'anxiété. Mais je pense qu'il faut être transparent. Je ne vois pas comment on pourrait avoir une vaccination obligatoire. Par contre, une fois qu'on aura montré sur justement ce qui a été dit tout à l'heure par Anne-Claude Crémieux sur les la manière d'organiser la vaccination, etc. Si on démontre, si on se retrouve dans un an avec une vaccination qui marche, qui a bien démontré, etc., là, ce sera une autre affaire si on doit voir encore une recrudescence de la pandémie arriver.
Bien. Merci, Ève Roger.
Oui, je voulais rappeler que quand les 11 vaccins obligatoires, c'est très récent, c'est Agnès Buzyn qui les a rendus à nouveau obligatoires, ils n'étaient que recommandés. Est-ce que vous avez vu des manifestations dans la rue?
Il y a eu une certaine polémique, mais pas grand-chose,
finalement, par rapport à ce qu'on attendait. Et donc, il y a une forme de légitimisme, au fond. Oui. On a dit, le médecin Agnès Buzyn dit que les vaccins sont obligatoires, et ça s'est assez bien passé. Oui. Et c'est assez légitime d'imaginer, de comprendre qu'aujourd'hui, les gens se posent quand même une question. C'est vrai que ce vaccin n'existait pas.
On apprend quand même, dans une enquête qui vient d'être réalisée par l'IFOP, vous allez voir, plutôt rassurant. On apprend que ce sont plutôt les jeunes qui sont hostiles au vaccin, mais pas tant par complotisme, mais plutôt par une forme, un sentiment d'invincibilité, nous dit cette étude, certes égoïste, mais qui n'est pas complotiste. Donc c'est un truc plutôt générationnel, et on nous explique que c'est plutôt le reflet d'une défiance vis-à-vis d'ailleurs du politique, et pas tant vis-à-vis du vaccin en tant que tel. Professeur Crémieux.
Oui, c'est ce qui sort des autres sondages, et en particulier internationaux, que effectivement les sujets âgés, qui se perçoivent légitimement beaucoup plus à risque que les sujets jeunes, sont beaucoup plus enclins à se faire vacciner. Et qu'effectivement, et ça c'est intéressant sur le plan de la gestion politique de la crise, il y a une association entre la confiance vis-à-vis des responsables et l'image positive de la vaccination. Il y a aussi une association, effectivement, à l'échelon collectif, avec la perception du risque. Tout ça est assez logique. On comprend parfaitement. Et ce qui, évidemment, dans cette situation, va nous aider, puisque l'idée, ce serait quand même de vacciner la population la plus exposée.
Frédéric Bizard, qui paiera tous ces vaccins ? Pour la France notamment, c'est l'État ?
Alors d'abord, vous savez, il n'y a pas plus coût efficace qu'un vaccin. La vaccination, sur le plan économique, c'est vraiment de très loin ce qu'il y a de plus rentable. Parce qu'il faut, à côté du coût, il faut regarder le bénéfice. Regardez dans ce cas-là, on a à peu près budgété 1,3 milliard pour 2021, donc ce qui est prévu de dépenses.
Mais vous savez pour le vaccin ?
Pour le vaccin, mais vous savez que nous perdons 1,5 milliard quasiment avec ce semi-confinement qu'on avait. On perdait 3 milliards dans un vrai confinement par jour. Hein, quand on regarde le coût d'une journée d'hospitalisation en soins intensifs, croyez-moi, le vaccin, on peut le payer 30 euros, 40 euros, 50 euros, c'est pas un problème de coût.
Vous avez vu ce chiffre qu'avait produit Patrick Artus sur le coût d'une vie sauvée aujourd'hui, au vu des mesures de soutien de l'économie de l'État, on était à plusieurs millions. Ouais. Plusieurs millions.
Mais juste un petit point sur la chose que disait le professeur Crémieux, et on verra avec la stratégie de vaccination. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce risque, il est absolument démesuré par rapport à la gravité de la pathologie. Hein, ce risque de mettre par terre toute une économie à travers le monde. Et en fait, c'est lié à deux choses que l'on connaît assez bien. C'est la méconnaissance du virus, que l'on connaît de plus en plus, mais on ne le connaissait pas au début. Et puis la notion de contrôlabilité. Donc en fait, le vaccin, ce n'est pas l'arme fatale, mais c'est ce qui va nous permettre progressivement de contrôler et donc de vivre sans danger apparent.
Le président s'est un peu avancé quand il avait dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, mais avec le vaccin, on pourra le faire.
On pourra le faire, mais il faut avoir la bonne stratégie. C'est la responsabilisation individuelle si on veut vivre durablement. Ce n'est pas des mesures comme ça, autoritaires de confinement qui descendent du haut vers le bas. Il faut absolument passer, au contraire, faire du bottom-up et passer par la responsabilisation individuelle. Sinon, on ne pourra pas vivre durablement.
Bien, un dernier mot, vos pronostics. Il sera là quand, le virus ? Juin ?
2021.
Juillet ?
Le vaccin, pardon.
Le virus, il est déjà là. On n'en peut plus du virus.
Non, à mon avis, il sera généralisé début 2022.
Début 2022.
Généralisé. Non, parce que les vaccinations des premiers groupes, les premiers semestres 2021. Allez.
Bien, merci pour ces échanges. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir pour parler de ce sujet hautement important qui est donc le vaccin. Merci infiniment, professeur, d'avoir été avec nous par téléphone depuis les États-Unis. Et on vous souhaite bonne chance dans vos travaux pour la suite. Merci.